Bonjour, bienvenue sur Radio Méga dans notre émission Underscore. Voici l'heure de découvrir la mélodie du mélo. Voilà de quoi s'en mêler les pinceaux.
Eh ben, allez, allô. Bonjour, MMMN. Bonjour, Doudou. Bonjour, Nebel.
Bonjour, Cécile.
Salut, tout le monde.
Hello.
Et bonjour, les auditeurs. Oh, bah, c'est Mini Mélo, hein. Ça se mélange chez Lisa. On sait pas trop, hein.
Ah ouais, c'est un mélodrame.
C'est ça, ou une belle mélodie, hein. Allons savoir, je crois que Medbel va nous parler d'un instrument musique numérique.
Ah.
Je vous en dis pas plus parce que, spoiler, c'est pas l'heure.
Bah non, c'est l'heure de l'actu.
Ah bah oui, alors, AMD a racheté Xilinx. Annoncé en 2020, ce rachat est donc finalisé par le géant des FPGA.
Le projet Zero montre que les problèmes de sécurité sont résolus plus rapidement sous Linux. Loin devant Microsoft, mais globalement, les corrections se font plus vite qu'avant.
L'Open Source Security Foundation annonce une campagne d'amélioration de la sécurité. Créée par Linux Foundation et financée notamment par Google et Microsoft, l'OpenSSF veut entre autres permettre l'automatisation des tests pour 100 000 projets open source très utilisés.
La CNIL propose un formulaire pour signaler les spams électoraux. Si vous avez reçu de la propagande électorale non sollicitée, parce que c'est pas encore l'heure, par SMS, par email ou voire un démarchage téléphonique, apparemment ça se fait déjà, vous pouvez le signaler à la plateforme mise en place par la CNIL. Et on retrouve bien sûr les liens, comme d'habitude, sur
underscore.radio.fm.
Ouais.
Mais il n'y a pas que la CNIL hein, que tu peux signaler les appels indésirables. J'ai vu qu'il y avait aussi Bloctel. Hein, qui
alors peut... Bloctel, en fait, c'est un site où tu dis toi que tu ne veux pas être appelé.
Mm-hmm.
Mais ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Enfin, bon.
Je crois qu'il y a une limite de 2 ans pour ne plus être appelé.
Une petite pause.
On écoute Endgame et on se retrouve pour notre sujet du jour avec Medbel. A tout de suite.
We'll be right back.
Game, The Last Jedi de Seismic. Je ne sais pas trop si ça se dit Seismic ou...
Seismic, oui, oui.
Peut-être.
Ça me rappelle, la fin, ça me rappelle Soundplay sous BOS. Il passait la vitesse à zéro, il descendait, il fait « Register me !» Et puis après, il repartait.
Eh bien, on passe au sujet du jour.
Ah bah ouais, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Mais
Belle, on t'écoute.
Alors, Mellotron du bon son. Le Mellotron est peut-être un vieil instrument, mais c'est partout dans la musique moderne. Il suffit d'écouter la partition de The Man dans l'Orient. Si vous voulez donner à votre morceau un son vintage qui vous rappelle les Beatles et d'autres groupes de rock des années 60 et 70, ben vous avez quoi? Le Mellotron. Mélancolique et mystérieux, le Mellotron appartient parfaitement à son époque et porte pourtant un héritage durable. Quelle était l'histoire derrière cet instrument idiosyncratique? Le Mellotron est un instrument... pas comme les autres. Un type précoce d'échantillonnage analogique. Son utilisation de bandes garantit qu'aucune note n'est jamais la même. Parlant de son influence, dans les années 60, l'auteur Don Holmes le décrit comme un instrument qui a prêté un son étrange et surnaturel à la musique, à de nombreux groupes de rock. Initialement adopté par les Beatles, David Bowie, les Rolling Stones, les Bee Gees, Genesis, le Mellotron balayait le monde de la musique pendant une dizaine d'années, coïncidant avec la montée du rock progressif. Puis aussi vite qu'il est apparu, il est soudainement devenu obsolète, ses créateurs jetant l'équipement de production à la poubelle. Alors, quelle était l'histoire derrière cet instrument énigmatique? Le Mellotron a été inventé en 1963 Birmingham, en Angleterre. Il a évolué à partir d'un instrument de fabrication américaine appelé chamberlin. Alors, un clavier électromécanique qui a été conçu à l'origine pour être utilisé dans les maisons familiales. En 1962, un agent commercial de chamberlin appelé Bill Francis a porté deux des instruments d'Angleterre dans l'espoir de trouver quelqu'un qui pourrait fabriquer des années de bandes pour les futurs instruments. Il a rencontré Frank Norman et les Bradley, et qui procédait une société d'ingénierie de bandes pragmatique. En voyant le chamberlin, les frères Bradley ont dit à Franson qu'il pouvait améliorer le design original. Avec Eric Robinson, qui était le chef d'orchestre et présentateur de musique pour la BBC à l'époque, ainsi que la célébrité de la télévision et magicien David Nixon, ils ont formé la société The Mellotronics. Alors, l'idée de Mellotron était ambitieuse, remplacer de manière convaincante un orchestre. Les sons ont été créés par des vraies cordes, flûte, orgue et percussions, enregistrant chaque note individuelle isolément. Alors, on vous mettra sur le blog une vidéo qui vous montre comment fonctionne le Mellotron. Alors, c'est tous les personnages que je vous ai présentés sont dans la vidéo. Précités plutôt, ils sont dans la vidéo et c'est pas mal. Vous verrez que c'est un genre de télé-show, mais bon, il n'y a pas les prix, il n'y a rien. C'est une belle démo. Alors, un tel processus d'enregistrement était inhabituel pour les musiciens d'orchestre et ils étaient incapables d'entonner correctement leur instrument. Dans ce cas, le violoncelliste Regina Kirby aurait refusé de dévaloriser son violoncelle de sorte que les notes basses plutôt été joué à la contrebasse. Selon l'auteur Nick Howard, une note sur le réglage des cordes contient même le son de la grattée. Le Mellotron fonctionne comme un échantillonneur, sauf que c'était à l'époque avant l'enregistrement numérique, donc tous sur les enregistrements ont été faits sur bande. Chaque touche de l'instrument était connectée à une longueur de bande magnétique. Lorsqu'une touche est enfoncée, la bande est poussée contre une tête de lecture, jouant le son enregistré. Lorsque la touche est relâchée, la bande revient à sa touche d'origine. Alors, on va vous montrer un défaut du Mellotron. Comme c'était des bandes magnétiques, on va mettre les doigts sur les touches et on va essayer pendant un certain temps et on va écouter qu'est-ce que ça fait.
Ah ouais.
Oui, au bout de 7 secondes, ben, y a plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'on arrivait à la limite. Donc c'est pour ça que lorsque n'importe qui jouait du Mellotron, il fallait à chaque fois réappuyer sur les touches pour que le son soit continu. Alors, donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce qu'on appelle l'aftertouch, qui a existé par après. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on touche le clavier, on doit bien enfoncer les touches, parce que, exemple, je prends un piano, si on l'effleure, on entend quand même un petit son. Là, on n'entend rien du tout. Donc, il faut vraiment appuyer sur la touche pour avoir le son. Et à la fin, au bout des 7 secondes, on a entendu le résultat. En raison de la nature de la bande, chaque fois qu'une note est lue, des fluctuations mineures de la hauteur, connues sous le nom de flutter and wow, se produisent comme dans les variations d'amplitude. Cela signifie qu'une note sonne différemment à chaque fois qu'elle est jouée. Et vraiment, c'est la clé qui rend le Mellotron si spécial. Dans ces premiers modèles de touches de Mellotron, ainsi divisés en deux moitiés, le plus long, et le rythme, c'est-à-dire que par exemple la partie gauche de la main c'est le rythme, donc à chaque fois qu'on entend ce sera la batterie plus la basse, et de l'autre côté l'instrument principal, exemple un orgue. Conçu à l'origine pour des utilisations plus spécialisées comme une maison familiale, où Paul McCartney l'a dit un jour dans les cabarets. Alors on verra donc la présentation du Mellotron. Là c'est vraiment la présentation en lui-même, en live, avec tout ce qu'il faut voir en détail. Vous voyez la bande, comme la lecture, etc. Tout est vraiment bien détaillé. Alors, on vous mettra la vidéo sur le blog. En 1970, le modèle M400 était lancé, contenant 35 notes et un cadre de bande amovible. À partir de là, l'instrument était adopté par la Tangerine Dream, qu'il a utilisé pour les albums Atom, Phaedra, Rubicon, Stratosphere et encore. Non, c'est le nom de l'album. Tandis que la mesure 80, il a été utilisé pour des groupes post-punk tels que Orchestral Manor in the Dark, très connu, XTC ou IQO, des rappeurs. Pourtant, malgré son utilisation connue, les perspectives d'avenir de l'instrument avaient déjà connu un ralentissement dans les années 70. Après un litige de marque, le nom Mellotron a été acquis par la société américaine Sound Sales en 1976. À partir de ce moment, tous les instruments fabriqués par Streetly, Streetlight, ont été vendus sous le nom de Novatron. Sound Sales a fabriqué son propre modèle Mellotron au début des années 80. Tandis que le Street a produit une version à boîtier routier, le M400 en 1980, et le T550 Novatron. Pourtant, au milieu des années 80, le développement rapide des technologies a entraîné de lourdes pertes financières pour les deux sociétés. C'est dû à l'essor du marché des synthétiseurs et des échantillonneurs électroniques à semi-conducteurs, sans clavier, Fairlight, etc. L'ère numérique battait son rempart et la bande était devenue obsolète. Le Mellotron, avec ses caractéristiques peu fiables et déformées, la chose même lui a donné du caractère à partir tenait au passé. Tout d'un coup, l'instrument a été rendu obsolète. En 1986, Sound Electronics a fermé ses portes et les fondateurs, les Bradley, a jeté la plupart des équipements de fabrication dans une benne. Il y en a qui l'ont récupéré. Finalement, Strictly Electronics a été réintégré par le fils de les Bradley, John, ainsi que Martin Smith, reprenant ses activités à temps plein. En 2007, ils ont même construit un nouveau Mellotron, le M4000, qui combinait une partie de la disposition et des fonctionnalités d'origine avec un sélecteur de bande numérique. Célèbre pour son caractère unique, l'héritage de l'instrument reste encore aujourd'hui où son destin est émulé dans de nombreux plugins, donc en audio. Et là, il n'y a bien sûr pas le problème au bout des 7 secondes, le son continue à l'infini. Le Mellotron est un miroir parfait de l'époque dans laquelle il est né, émergeant une époque de grands changements florissants. Il a fourni une réponse alors moderne à la technologie de l'époque. Et pourtant, il a quand même réussi à rester quelque peu indomptable, échappant à la précision que l'ère numérique allait bientôt apporter, même s'il existait au bord même de son aube. Pardon. À ce jour, le Mellotron reste l'un des instruments les plus uniques jamais créé. Et même si le monde numérique progresse de plus en plus, il y a sans doute encore quelque chose de spécial dans ce monument vintage.
Merci Maître Bell.
Voilà. Merci Maître Bell, reviens avec nous. Alors pour les auditeurs hein, qui oui. n'ont peut-être pas forcément idée de ce que, à quoi ressemble un Mellotron, eh bien, pour utiliser le Mellotron, vous utilisez un clavier comme vous le feriez sur un synthétiseur, sauf qu'à la place des notes, eh bien, vous avez des bandes magnétiques hein, qui vous permettent justement de faire les sons. Et comme disait si bien Maître Bell, c'est un instrument qui a son côté analogique imprécis, qui fait tout son charme. Et je pense que je vais réécouter les musiques de rock progressif justement pour essayer de m'inspirer et de voir un petit peu à quoi ça ressemblait à l'époque.
Donc, dans un futur quiz, il y aura un spécial Mellotron avec des chansons.
Ah, bien ! Eh bien, j'ai hâte de découvrir ça. On écoute Dual Tracks de Orion pour ensuite se retrouver pour l'agenda. Dual Tracks de Orion Space Force. Elle est presque arrêtée, mais elle continue encore.
Non, encore si tu veux.
Ah oui, c'est clair. Mais avant, on passe à l'agenda. Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée, l'heure de rediffusion le samedi.
Les rencontres du troisième lieu, originellement prévues le 10 février, alors ça sera c'était reporté au jeudi 10 mars. On parle beaucoup des tiers-lieux, mais qu'est-ce que c'est ? C'est tout à la fois un lieu plein de vie dans lequel des projets communs voient le jour, et surtout une grande diversité de personnes pour le faire vivre. Venez participer à cette grande soirée pour plonger dans l'univers des tiers-lieux et imaginer des solutions pour leur développement. Donc jeudi 10 mars, 17h30, 21h, à l'INED rue Marc Seguin, 1 rue Marc Seguin à Alixan.
Common User Europe Event au programme de l'émulation du PetSki du Python. C'est le samedi 12 mars à 19h30 en ligne.
Ouais, je crois que tu vas y participer, non ? Même pas. C'est pas. Non, Amstrad, c'est pas pareil, hein ?
Ça n'a rien à voir.
Oups ! Pardon. Désolé, moi, c'est pas d'Amiga, alors forcément, je fais des bêtises, hein. On passe à du lien et des liens.
Désolé, autant pour moi. J'ai du monde à côté, donc c'est compliqué. Oui, du lien et des liens, qu'est-ce qu'on a ?
Avec DistroTest, testez en ligne la distribution GNU Linux de vos rêves.
Wow.
Oh, une liste de produits français certifiés Open Hardware.
C'est bien ça. Un article de blog, comment comprendre les fondamentaux de la photographie pour améliorer ses images. C'est bien ça aussi.
une série d'articles de blog sur le développement de pour Super NES.
Sur ZDNet, le récit de la bataille des brevets logiciels, comment Michel Rocard découvrit le logiciel libre et les libristes.
L'extension GNOME burns my windows, ferme vos fenêtres, enfin les détruit plutôt de façon spectaculaire au choix entre les griffes de T-Rex, des flammes, l'effet Matrix et plusieurs autres.
Ouais, ça fait presque envie de retourner à GNOME.
Astrologique,
oui.
Qui frotte la boule. Gamer, l'esport fait vivre.
6 admin, la mise à jour de Petit, c'est moyen ?
Old school. Oui, j'avais anticipé, j'avais acheté tous mes t-shirts en jaune.
Nerd, waouh, t'as trouvé une Nintendo Switch Cisco ? Elle fait 2 gigabits ?
Amégaïste, en début, j'ai pas un méga, j'ai Amiga.
Électronicien, avant il fallait une plombe pour souder, maintenant j'ai éteint mon système.
Oh là là.
Ah, elle était bien bonne, celle-là.
Ah ouais.
Mais dis donc, on est un peu en avance, là.
Ah bah, je sais pas.
Non.
On a fini en avance.
Ouais, on a pris le TGV, là.
Oh, dis donc.
À grande vitesse. Mais sinon, la semaine prochaine, on se retrouve aussi à la même heure, dimanche à 12h10 sur Radio Méga.
Ah ouais.
Et puis également, le samedi, on est rediffusé.
Ah oui, c'est vrai. Toujours à 12h10.
Toujours à 12h10.
Toujours sur Radio Méga.
Toujours sur Radio Méga.
Ah ouais.
Et puis... Oui, Maître Bell, je t'écoute.
En 2022, j'ai quand même été plus rapide qu'en 2021. Hein.
Ah oui, mais il faut quand même prendre le temps d'articuler quand même, mais c'est bien.
Oui, non, ouais. C'est clair. Mais là, on va dire que... je pense qu'à force de parler aussi, des fois, quand tu parles trop, après, tu finis par t'assécher. Et quand tu prends pas le temps de respirer et de prendre une pause, ça marche pas bien.
Ouais, c'est ça.
Mais bon, on est tous là pour s'améliorer et puis d'avoir le plaisir de vous parler à nos chers auditeurs. Et nos podcasts sont aussi écoutables sur underscore.radio.fm. On peut nous retrouver également sur iTunes, mais également sur Amazon.
Oh,
oui, on peut nous retrouver là-dedans. Et puis aussi, où est-ce qu'on peut nous retrouver ailleurs ?
À Valence.
À Valence ?
Ouais, aussi.
Ouais, c'est bien.
Ouais, c'est bien.
Bon, et sinon, la semaine prochaine, qu'est-ce que tu nous envisages comme sujet ?
Alors, je crois qu'il y a une belle plâtrée de fail du mois, déjà. Donc, du coup, j'ai préparé un tout petit sujet pour aller avec, parce que sinon, ça va être un peu indigeste. Donc, voilà. Mais il y a beaucoup de fails, ouais. Ça n'arrête pas. En fait, tu rédiges les trucs sur le pad et puis ah non, mais il y en a encore qui arrivent. Non, mais en fait, je suis déjà à 8 minutes là. Non, je suis à 9 minutes là. N'en rajoutez plus.
En tout cas, c'est d'ailleurs on parle du cyberattaque la semaine dernière. Hein.
Bah ouais, il y en a eu.
Et il y en a eu beaucoup, j'imagine.
Ouais.
Eh bien, quoi qu'il en soit, restez à l'écoute.
Ouais.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Bye
à très bientôt. Bye bye.
Bye.
Bye.